retrouver Rose pour l'émission Contradiction sur IDFM Radio, un temps dédié aux gens qui se donnent du mal pour aller bien.
Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un livre. Un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre, est disponible à peu près partout aux éditions Erol.
Moi, c'est très culturel. C'est pour ça que je pense que c'est quand même important de déconstruire culturellement le côté positif de l'alcool. C'est quand même un truc qui est très mauvais pour la santé. Enfin, je veux dire, c'est du poison.
Élevé comme de nombreux enfants des 70s à coups de gitane sans filtre, vitre fermée dans la R5, notre invité fume sa première cigarette à 11 ans et demi. Une Peter Suvezent, j'ai jamais su le prononcer, du coup j'en ai jamais acheté, ce qui m'a pas empêché d'essayer toutes les autres marques. Bref, la clope, dans sa famille, c'est culturel. Et l'alcool aussi. Sa maman travaille dans le milieu viticole et organise des dégustations de vin à la maison et lui fait goûter naturellement les fonds de bouteilles. À 14 ans, elle fume régulièrement et prend sa première cuite au Malibu Ananas, évidemment. Oui, en 88, la noix de coco avait la cote. Après ce remake d'Alerte au Malibu, ce sera du grand n'importe quoi, dit-elle, à force d'être livrée à elle-même, entourée de gamins qui ont les mêmes velléités. Le terrain est fertile, voire glissant. Elle m'a confié avoir eu une grande carrière festive. Et j'avoue que cela m'a un peu surprise. Pourquoi ? Peut-être parce qu'elle est bien trop fraîche déjà pour une nana qui a consommé exagérément, mais aussi parce qu'elle anime brillamment depuis 2016 la maison des maternelles sur France 2 et qu'on ne l'imagine pas s'être pris une cuite avant de parler musculation du périnée, grossesse extra-conjugale ou péridurale non souhaitée, mais demandée d'urgence quand même. Et pourtant, elle a donc fait la fête très fort et jusqu'à ses 35 ans. Non, 39. Peut-être 38. Elle ne sait plus, mais elle sait qu'elle est devenue, deux enfants plus tard, la relou qui fait remarquer aux autres qu'ils boivent trop. Mais la relou sympa, précise-t-elle, sur le champ. Elle officie aussi auprès d'Ali Rebéi le samedi matin sur France 2, dans l'émission dont le nom et le contenu lui vont comme un gant, bel et bien. Un gant de crin, parce que nous allons le voir, elle est un adorable paradoxe. Vous l'avez compris, c'est Agathe Le Caron qui est avec nous aujourd'hui pour parler cigarettes, alcool, hypocondrie, angoisse, fringues, teuf, apéro, rock'n'roll, maternité, cinquantaine, émotions, hormones, good vibes, nous allons parler de la vie quoi. Alors merci Agathe de partager tes addictions et contradictions avec nous ce matin et nous prouver qu'on peut rester rock'n'roll tout en se faisant du bien.
Bonjour Agathe.
Bonjour. Merci. C'est tout est dit hein. Merci, au revoir.
Toi aussi, on me l'a déjà fait le coup. Je te signale qu'on me l'a déjà fait et je garde les gens quand même.
Parce que c'est bien fait, c'est pour ça.
Ah, ben merci beaucoup, j'ai toujours un peu la pression parce que pour avoir fait des introductions parfois un peu touchées par la grâce, tu dois savoir ce que c'est, ce moment où on s'enflamme. Et je sais que c'était justement pour, on en parlait tout à l'heure pour Didier, pour Joey Star. Je me rappelle avoir fait un truc où les gens, quand ils viennent en face de moi, ils attendent de moi des fois des prouesses et je ne me sens pas tout le temps à la hauteur. Mais en tout cas, tu m'as inspirée et parce que je connais beaucoup de gens dans la fête comme toi qui ont arrêté facilement, qui ont réussi à garder justement un visage humain, à avoir compris tout seul. Moi, j'appelle ça les vieilles âmes, des gens qui n'ont pas besoin de se fracasser pour comprendre, de se prendre 12 000 murs pour comprendre. Mais toi, tu as une chance, et on va le voir, je l'ai mis dans le titre de cet épisode, c'est que tu as été sauvée par le gong de la maternité.
Oui, c'est vrai. Oui, je pense que ça a mis, ça a été le terme de ma carrière festive, comme tu disais joliment. Mais bon, je sais pas si vraiment c'est très noble parce que c'est la peur le moteur de tout ça. C'est la peur de mourir, la peur de les quitter trop tôt, etc. Donc je sais pas si je suis une vieille âme, mais en tout cas, je me suis sentie une responsabilité par rapport à ça en me disant, moi, je les ai fait tard, maintenant il faut assumer.
Voilà. Bah, c'est très noble, en fait, justement.
Oui, peut-être, ouais.
Non, et puis il y a aucune émotion qui n'est pas noble, elles sont toutes humaines. Je commence toujours en demandant à mes invités, puisque tu écoutes mon podcast, on m'a dit, ça ne veut pas dire que tu as préparé cette question et je ne l'espère pas, mais en tout cas, qu'est-ce que c'est l'addiction pour toi ?
C'est une structure très très complexe l'addiction, c'est-à-dire qu'en fait, je vois ça comme quelque chose, une structure avec plein de rouages, avec plein d'engrenages. Il y a évidemment l'addiction de la chimie, Mais moi, pour moi, elle serait plutôt émotionnelle. Si je devais résumer, je dirais que ça vient remplir une vacuité, quoi qu'il se passe. Voilà, ça vient boucher un trou pour moi, mais momentanément. Mmh. Voilà. Et donc, à chaque fois, on a envie de reboucher cette vacuité pour se remplir, se remplir, se remplir. Enfin, en tout cas, moi, je pense que c'était ça. Et puis, après, c'est une quête désespérée parce que forcément, on n'arrivera jamais à remplir. C'est comme quand la mer monte et que le sable absorbe et qu'il sèche et que ça revient et que ça ressèche, en fait.
Voilà, on ne pourra jamais sécher, tu veux
Exactement.
Dire.
Exactement.
Mais cette vacuité, c'est un peu la cause de toutes les addictions et même des souffrances. Et on l'a vu avec notre ami Franck Lobvé. Pour pouvoir guérir, il faudrait accepter ce vide puisqu'il fait partie de nous. Et
Bien
au
sûr.
Contraire, il le caractérise comme le tunnel, en fait comme un espace justement qui nous permettrait d'accéder à notre moi profond.
Bien
Donc
sûr.
En fait, comme on a peur de ce qu'on a au fond de nous, on le bouche.
Oui, on évite,
ouais,
de toute façon.
On évite.
Et puis après, cette vacuité, elle peut être aussi due à un manque d'amour.
Bien sûr. Mais le manque d'amour originel, encore une fois, il y a le manque d'amour qu'on a eu dans notre vie.
Bien
et il y a aussi ce truc un peu spirituel qui est, à partir du moment où on est, on aurait oublié notre nature un peu divine, quelque chose d'assez fort qui a disparu et qu'on a oublié, en fait. Mais en tout cas, moi, je pense que tu as bien raison sur les rouages, parce que c'est très complexe. C'est très complexe.
C'est très complexe. Moi, je te dirais que je n'ai pas une nature addict. Et pourtant, j'ai eu besoin de ma cigarette et de la fête à outrance pendant des années et des années. Mais j'ai toujours eu l'impression que j'aurais pas pu être alcoolique, tu vois. J'aurais au maximum pris une mauvaise habitude.
D'accord.
Tu vois, donc c'est vrai que la frontière est un peu ténue quand même, je sais
Elle
pas trop.
Très ténue.
Ouais.
Mais comment ça commence? Donc tu m'as raconté que tu as fumé très tôt et que dans ta famille, de toute façon, tout le monde fume.
Moi, si j'analyse, je pense que la base, c'est de vouloir être aimée. C'est-à-dire que ma première clope, c'est le regard de la fille d'amis de mes parents qui a 2 ans et demi de plus que moi. Et je veux absolument qu'elle m'aime. Donc, on va acheter des Peter Stuyvesant. On n'a pas vraiment le droit. Et je fais ma première clope. Elle tousse. Et moi, je suis là en train de me dire, faut pas tousser. Quoi. Faut pas tousser. Faut que je sois la plus jeune. Voilà, mais la plus forte, quoi. Donc, ça commence comme ça.
Et tu voulais être la plus quelque chose, déjà.
Je voulais qu'on me regarde parce que j'étais vraiment... j'avais une estime de moi à zéro petite, mais
Alors,
vraiment à zéro.
Cette histoire d'estime de toi, en fait, petite, c'est-à-dire que c'est par rapport à une nature ou c'est vraiment ton enfance? Est-ce que tes parents étaient trop occupés ou trop 68 ans, j'en sais rien, pour s'occuper d'un enfant?
Ils n'étaient pas vraiment 68 ans, ils étaient surtout dans leur petits problèmes à eux. Ils m'ont eu jeune. Aujourd'hui, ça paraît jeune, à l'époque, c'était normal. C'était pas un couple qui s'aimait, donc ils avaient chacun des histoires et ça prenait toute la place chez eux. C'est-à-dire que ma mère, l'image que j'ai d'elle, c'est d'elle parler à ses copines de ce que lui fait mon père et en même temps de sa vie à elle. Donc en gros, ils avaient des amants et des maîtresses, c'était ce qui prenait toute la place. Et moi, j'étais fille unique là-dedans, donc un peu laissée pour compte et avec vraiment l'impression que je n'existais pas. C'est-à-dire que j'ai même des souvenirs de gens qui parlent de moi à côté de moi en disant « Ouais, Agathe !» Ah oh, putain, ils m'ont remarqué. C'est vraiment, ils m'ont remarqué.
C'est fou ce que tu dis parce que je suis en train de lire ce livre de Christiane Singer qui s'appelle « Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?» Et cette femme raconte au tout début de son livre, je ne sais plus si c'est ce livre ou un autre parce que je lis tout d'elle tellement elle m'a marqué. Enfin, c'est devenu mon auteur préféré en 3 mois, tu vois. Et en fait, elle raconte une histoire comme ça d'enfance où elle doit aller à l'église pour... ça doit être un baptême ou quelque chose. Elle est censée être une petite demoiselle d'honneur. Moi, je ne connais pas trop toutes les messes et tout ça. C'est pas ma religion, c'est pas ma culture. Mais bon, elle doit y être. Sauf qu'elle se rend compte en sortant de la voiture que sa robe a traîné dans la boue. Donc, elle ne peut pas monter les marches et donc elle se rend compte qu'elle va être laissée pour compte et donc on la remplace. Donc déjà elle dit je ne savais pas qu'on pouvait être remplacé si vite dans la vie, donc déjà c'est son premier souvenir hein. Et après elle dit elle a l'impression de ne pas exister du tout et à un moment donné il y a une femme qui vient la voir et qui lui dit bah alors ma petite Christiane c'est pas toi qui devais porter les trucs et là elle dit waouh,
on m'a vu. Mais on m'a vu, moi j'étais vraiment dans ce truc là, on m'a vu. Et après alors comment se forgent les personnalités avec tout ça, quoi, avec tout ce bordel-là. Et donc, moi, ça m'a permis sûrement d'être la fille la plus drôle pendant un moment. Ça a développé très certainement mon sens de l'observation parce que j'essayais de prendre l'essence chez tout le monde de ce que j'aimais, de ce que je trouvais le plus intéressant, etc. Donc, tout ça, super, ça fait ce que je suis aujourd'hui. Et comme je m'aime bien aujourd'hui, enfin, Bon, bah super, ça je ne regrette rien, mais ça met beaucoup de temps. Et tout ça, la clope, l'alcool, tout ça, c'est un mélange de c'est cool, et comme ça, ça me permet d'appartenir à un groupe. Et en même temps, culturellement, c'est extrêmement accepté, c'est dans les mœurs et de ma famille. Mes parents fument, mes parents boivent du vin, et je vois chez moi des dîners tout le temps. C'était quand même très, très festif, très joyeux, des soirées. Ma mère obsédée par les soirées, obsédée par les dîners. Enfin, c'était, voilà, notre vie, elle était jalonnée par ça. Et donc, pour moi, c'est même pas un sujet. La cigarette, c'est même pas un sujet. Je me vois, je mettais du vernis à ongles, je finissais les mégots de ma mère à 11 ans, 12 ans, je me regardais dans la glace en train de fumer. Je trouvais ça pas mal. Enfin, voilà. Bon, et puis après, je me suis fait gauler à 14 ans. Ils m'ont un peu engueulé sur la forme. Enfin, bon. À 16 ans, je fumais devant eux et voilà.
Bah oui.
Donc, c'était totalement intégré, quoi.
Mmh. Voilà. Tout à fait. Et en fait, c'est même pas. Il y a aussi cette appartenance, mais il y a aussi. C'est valorisé aussi le fait d'être la nana qui est rock'n'roll, qui boit, qui fume, qui est drôle, en fait. Parce que, en fait, ce que tu me racontes, ça me fait penser un peu à ma carrière aussi, quoi. À ma carrière festive, je parle.
Ben oui, c'est-à-dire que tout le monde avait envie d'être avec moi, voilà. Parce que j'étais cool.
On veut, absolument. Voilà. En fait, moi, je disais toujours, je sens que s'il n'y a pas Keren à la teuf, c'est pourri.
C'est ça. Et moi, à un moment, je me souviens de m'être dit, mais là, j'étais un peu plus âgée, vers 30 ans, je me disais, et si je me faisais rémunérer pour aller dans les dîners, quoi? J'y serais vraiment riche, parce que je savais que je faisais marrer tout le monde, etc. Mais c'est marrant, j'en avais discuté avec Benoît Poulvorde, le fait de tout faire trop. C'est-à-dire que lui, il a ce syndrome-là aussi. On attend de lui qu'il fasse rire, on attend de lui qu'il picole. Et moi, j'étais un peu... effectivement, tout le monde était un peu au spectacle. Et donc, quand j'arrivais, on attendait de moi que je fasse marrer, on attendait de moi qu'on se prenne une énorme biture, etc. Et après, je rentrais chez moi, j'avais plus aucune énergie, j'étais vide. J'étais vraiment la coquille vide. Et je pleurais. Et on en avait parlé tous les deux. Il m'avait dit, mais t'es pas fatiguée, toi? Parce qu'on s'était retrouvés là-dedans, on était un peu les deux clowns quand on dînait ensemble.
Lui, il a pas arrêté. Enfin, je veux dire, en tout cas, ça fait
lui,
partie de sa
lui, de toute façon, c'est un.
C'est plus. Il est plus. C'est plus
le mec. Le mec n'a tellement pas d'armure, quoi. C'est tellement. Il est tellement au monde dans ce qu'on a de plus sensible. Je veux dire, c'est du feu qui brûle. Quand on touche sa peau, on se brûle. Ce mec, c'est.
Et lui se brûle.
Et lui se brûle en premier. Et donc, en fait, ouais, moi, j'avais un peu ce truc-là, mais avec, à mon avis, plus structuré, si tu veux, quand même. J'ai un socle qui fait que... Et puis, la peur. Tu vois aussi, j'ai pas envie d'être en bonne santé, d'être en mauvaise santé, folle. Malheur, c'est que je vais devoir
cracher.
Oui,
je sens que ça y est.
Elle l'a dit un peu. Oh là là. Mais non.
C'est marrant parce qu'on en parlait ce matin dans une émission dans laquelle je participais avec des psychiatres qui disaient pourquoi est-ce qu'il y en a qui sombrent dans l'addiction et d'autres non. Il y a cette histoire aussi, en effet, déjà du temps de conso, souvent. Comment est-ce qu'on peut arrêter ou pas si on n'a pas été trop longtemps dans l'addiction, mais aussi ce socle dont tu parles. Oui. Il y en a qui ont la chance d'avoir un socle et on ne sait pas d'où il vient, parce que toi, tu me dis quand même ta famille, c'était quand
non,
même pas évident.
Non, moi, je pense
évident.
Que de 0 à 7 ans, il y a quelque chose de très structuré, beaucoup d'amour, etc. Toujours le même couple, mais...
Des grands-parents aussi, peut-être?
Non.
Même
voilà,
pas?
Non. Mais vraiment très, très seul. Non, mais bon, des cousins. Et puis des parents, quand même, qui sont beaucoup là. Après 7 ans, j'ai pas le souvenir de...
C'est fou. Et tu te rappelles d'avant 7 ans, toi?
Non, mais en fait, je sens, en ayant, tu vois, j'ai quand même quelques souvenirs, je sais que ma mère, elle était hyper impliquée dans l'école primaire, tu vois, elle était à l'appel, elle organisait les fêtes de l'école, je la vois, quand même, elle m'emmenait à l'école, main dans la main, beaucoup de câlins, donc je pense que ça, tu le gardes pour toute la vie. Et après ça, je pense que le pire pour moi, ça a été vraiment la préadolescence, quoi, tu vois, je dirais la période 10-14 ans, c'était là, c'était les limbes totales.
Est-ce que tu te sens mal dans ta peau à ce moment-là? Parce que moi, j'ai un souvenir de me regarder dans le miroir et d'avoir envie de vomir.
Mais c'est au-delà. Je veux dire, moi, d'abord, personne ne m'a jamais vue en maillot, ou en tout cas...
Pareillement.
Si, bah alors, je marche de côté, j'ai trouvé un bon truc de crabe, si tu veux. Pas trop que je parle de crabe, évidemment, parce que... Non, je plaisante. Mais tu vois, marcher de ce côté, faire des pas chassés volants de côté, pour que les gens ne te voient pas
crabe,
trop.
Pardon. Ah,
mais... Non, mais tu
la
vois...
folle furieuse.
La folle. Non, mais tu sais, il y a des mots interdits.
Ah, parce que donc, t'es hypochondriaque, mais superstitieuse en plus.
Totalement.
D'accord, okay.
Généralement, ça va te perdre, malheureusement.
Oui, ça va te perdre.
Et donc, j'ai évidemment des souvenirs de complexes terribles. Et en même temps, voilà, je cherchais le regard des gens et en même temps, je l'évitais, tu vois.
Mon
tout
Dieu,
ça est très ambivalent.
Mais qu'on se ressemble.
Ah, bah oui.
Oh, moi, est-ce que t'as eu cette période de veste en jean autour de la, la fesse?
Pull autour de la taille.
Personne ne m'avait vue jusqu'à que j'ai peut-être 25 ans.
Non, mais moi, personne.
Sans ce pull mais moi non plus. Taille.
Jamais. Et en plus, c'était un peu la mode, ça m'arrangeait dans les années 80-90. Oui. Il fallait avoir le jean 501 large, ouais, avec le pull autour de la taille et tout. Donc, c'était parfait.
Ouais. Et ça cachait rien, ça grossissait vachement. C'était pire. Mais c'est au moins. On pouvait pas le voir.
Mais tu sais, c'est comme les stars qui mettent des lunettes de soleil. On dit, ils se la pètent, mais en fait, c'est une façon de pas avoir à regarder
protéger,
l'autre.
Bien sûr.
Tu vois, c'est juste ça. Et ben là, c'est pareil.
Oui, c'était une protection. Moi, je me rappelle, je me sentais nue.
C'est une carapace.
Ouais. Et puis pareil avec les énormes. Il fallait que je sois tout le temps sur des échasses.
Bien sûr.
Des espèces de trucs là, les no-name. Bon, on va pas être là pour parler de moi, n'est-ce pas,
Marjorie? Non, mais bon, si, c'est un échange.
Non, mais par contre, ça me parle énormément. Il y a énormément de choses qui me parlent dans ta façon. Dans ta relation aux autres et ta relation à toi. En revanche, ce qui m'intéresse vachement, parce que je ne connais pas ça, c'est l'angoisse. C'est d'où vient cette angoisse? Parce qu'on dit que souvent la tristesse. Moi, je suis plutôt de la team mélancolie-dépression, donc c'est plutôt le passé.
Ouais, alors moi,
toi, c'est l'avenir.
À moi, pas du tout. Ouais, non, moi,
l'angoisse, c'est l'avenir.
Alors en plus, moi, c'est au point que je n'ai aucune mélancolie, que c'est vraiment un sentiment que je ne connais pas. J'ai pas de nostalgie d'enfance. Alors, j'ai des moments, tu vois, d'immense bonheur rétrospectif. Un coucher de soleil, le premier baiser avec mon mari. Enfin, en tout cas, la première galoche importante, etc. Ces trucs-là. Mais alors, vraiment, aucune nostalgie. J'ai évidemment, comme tout le monde aujourd'hui, beaucoup de mal à profiter du temps présent et une immense anxiété de l'avenir. Donc, tout ce mélange fait qu'il y a un peu une hypervigilance et une hypertension permanente, tu vois.
Oui, tu disais ça pour le sommeil.
Oui, ça se voit sur le sommeil, ça se met toujours quelque part. Voilà, moi, ça s'est mis sur le sommeil. Chez d'autres personnes, ça peut se mettre ailleurs. Mais cette peur-là, paradoxalement, a des vertus chez moi, c'est que ça m'a empêchée, je pense, d'aller faire d'immenses conneries. J'ai fait quelques grosses conneries, mais en tout cas, jamais de drogue dure, etc. C'est ça qui m'a sauvée.
Et donc, ta première cuite, est-ce qu'elle est en rapport avec des angoisses ou pas du tout? C'est vraiment pour s'amuser.
Ah oui, non, la première cuite, c'est avec des copains. C'est normal de boire. Quand est-ce que va être la première cuite? De la même façon que quand est-ce qu'on va faire l'amour pour la première fois? C'est quand la première cuite, elle va de toute façon avoir lieu. C'est un passage obligé. Tes parents, de toute façon, ont trempé des sucres dans du champagne, t'ont fait goûter même dégorgé, même quand t'étais petite, etc. Donc évidemment, ça va arriver ces jours-là. Moi, je me souviens, j'ai un poster de Bob Marley dans ma chambre et donc je vois Bob Marley aller de droite à gauche et je me dis ça doit pas être encore ça parce qu'on m'a dit que c'était cool en fait de boire et là j'ai pas une sensation cool, faut que j'aille au-delà, donc je continue à boire mon Malibu Anana et j'ai fini, je me suis installée dans les toilettes, j'ai dormi dans les toilettes.
Oui.
J'étais malade, mais un truc. Mais bon, après je me souviens plus bien de ce qui s'est passé juste après, de la cuite d'après, mais après il y en a eu des milliards et c'était totalement normal.
Est-ce que dans ta bande d'amis, parce que moi j'ai vécu ça aussi comme toi, de boire très tôt et d'avoir des cuites comme ça, de me retrouver à dormir dans les... J'ai eu l'impression quand même qu'à un moment donné, on me faisait beaucoup boire parce que finalement, ça faisait rire tout le monde.
Ouais.
On me poussait, mais aussi parce qu'il y a eu quand même quelques profits et abus. C'est-à-dire qu'on troule des pelles facilement, on tripote facilement.
Moi, j'ai pas eu tellement ça. Moi, en fait, je plaisais pas aux hommes.
Ah, c'est... super.
Non, ouais. Non, mais je ne plaisais pas aux hommes parce que j'étais le clown. Donc, en fait, j'avais à la fois trouvé la façon d'être aimée. C'était grâce à ça qu'on m'appelait, qu'on dit « Ah, t'as appelé Agathe pour qu'elle vienne avec nous », etc. Mais le retour de bâton, c'est que je plaisais pas, j'en souffrais vachement.
Ouais.
C'était toujours... D'abord, en plus, je me suis toujours entourée de copines hyper belles. Une de mes meilleures amies, c'est Virginie Efira. Je me souviens qu'après, je traînais avec Justine Fraioli. Je sais pas si tu vois qui est Justine Fraioli. Ouais. C'est une bombe, on dirait Michel Pfeiffer.
Donc, c'est vrai, c'est vrai.
Alors, tous les mecs étaient à fond sur Justine et Virginie. Tu penses bien que moi... Et donc, j'étais un peu le clown, content de l'être sur le moment. Et puis, enfin, un peu triste quand même, parce que j'avais
clown triste,
d'avoir des amoureux.
On connaît le
quoi,
clown triste, hein.
Ouais.
C'est pas un mythe, hein.
Non. Et donc, moi, j'étais très comme ça. Et...
Donc, c'était ta place, t'avais trouvé ton étiquette. Et celle-là, on n'a pas envie de l'enlever en général, hein, parce qu'elle marche.
Et puis, à l'époque, si tu veux, il y avait un truc très garçon manqué à se taper des mètres de tequila, frapper, tu vois. Et donc, moi, ça me faisait marrer de faire comme les mecs, parce que du coup, j'appartenais à un groupe, mais j'appartenais au groupe de mecs. J'étais leur pote. J'étais pas la fille dont on avait envie.
D'accord.
Qu'on avait envie d'embrasser.
Okay. Non, parce que moi, je me suis souvenue de ça, mais récemment, c'est pour ça que je te posais la question.
Non, moi,
je sais pas si j'hallucine ou pas. Mais rien de grave en soi, hein, mais je me rends compte que les mecs devaient quand même en profiter. Mais on
oui,
a les
non,
mêmes
mais,
choses.
Truc, non, mais après, mais
les mêmes histoires quand même.
J'ai eu des histoires comme ça. Tu vois, mais plus âgées, Ouais, voilà,
ça,
tu
je
vois.
T'en parle même.
Non, mais bon, plus âgé.
Moi, je suis loin du
ça fait partie
hein.
des errances. Hein.
Non, moi, c'est pas du tout ça que je veux évoquer. Hein. Mm-hmm. C'est plus au contraire. Moi, je trouve que je pense que c'est moi qui me manquais énormément de respect.
Oui, oui, mais moi aussi,
donc,
pareil.
Je suis pas du genre à aller accuser quelqu'un.
Ah
de
non, moi, j'arrive pas. J'ai vécu forcément comme toutes les femmes de ma génération. Mm-hmm. On a été élevées dans quelque chose, dans un système, en fait, dans une société où tout ça était hyper normal. Mm-hmm. Mais je ne le réalise qu'aujourd'hui. Mm-hmm. Et à l'époque, ça ne m'a absolument pas traumatisée. Je n'en garde pas.
Pareillement.
Je me dis juste, j'ai envie de vivre dans un monde où ça n'existe plus, parce que
j'aurais
pas envie
de ça
pour nos enfants. Mais moi, personnellement, j'étais plutôt en train de chercher le regard des hommes. J'étais plutôt, justement, parce que j'avais tellement l'impression de pas séduire. Et c'était un tel manque pour moi que, non, j'ai plutôt... Enfin, j'ai assumé en tout cas toutes mes errances et mes histoires un peu moches de l'époque, sans problème.
Bah oui, et en parlant d'errances, justement, ces histoires un peu moches, il y en a sûrement qui sont transformées en histoires un peu plus jolies quand même. L'amour dans tout ça, qu'est-ce qui se passait
en fait?
C'est quoi ton quotidien en fait, à 20 ans?
Alors, mon quotidien à 20 ans, j'étais avec un garçon pendant longtemps, pendant 5 ans, dans une histoire très normale, très saine, mais évidemment dans laquelle je me suis un peu emmerdée au bout d'un moment, parce que voilà, c'était beaucoup trop simple pour moi et beaucoup trop sain. Et moi, j'ai toujours été attirée. Moi, j'ai été élevée dans un milieu très bourgeois, très aisé, dans le 16e. J'en avais honte. Donc, je me souviens, quand j'étais petite, on me disait, mais t'habites où? Et je disais, en 15e. Parce que ça faisait mieux, tu vois, j'avais pas du tout envie
c'est
d'avoir
plus
cette.
Populaire, le 15e.
Ouais, mais j'avais pas du tout envie d'être la fille du 16e. Je trouvais ça ultra ringard. J'étais souvent contre mes parents. J'avais envie de liberté, d'autonomie. J'avais envie d'avoir mon permis de conduire à 10 ans et demi. Moi, mon appart à 11 ans. J'avais envie de me barrer. J'avais envie de vivre des aventures. Donc, ce mec-là, à l'époque, c'était bien trop sain, bien trop normal pour moi. Ou lui, il travaillait chez L'Oréal. D'ailleurs, il y est toujours, d'après ce que je sais. Donc, je savais que ça allait se passer comme ça. Moi, je faisais des études d'anglais. Ma mère me disait, sois prof, c'est très bien, sécurité de l'emploi.
Ah ouais.
Mon Dieu, c'est parce que c'était la seule matière
attends,
dans laquelle j'étais bonne.
J'ai l'impression que tu racontes ma vie depuis tout à l'heure, c'est l'enfer.
Ah ben bah, voilà. Bah, écoute,
non, mais ma mère, quand j'étais institutrice, un an, j'arrête après, bah, c'est pas possible. Pareillement, 5 ans jusqu'à 20 ans, un mec stable, j'allais me marier, bon voilà. Et ma mère, quand j'étais incite, elle m'a dit « c'est parfait pour toi ce métier, c'est parfait
oui.
pour une femme ».
Oui, moi aussi, ma mère m'avait de toute façon dit... Alors, elle travaillait à mi-temps, etc. Sa carrière, c'était pas ce qui la nourrissait, je parle intellectuellement le plus, et dans sa vie, dans son épanouissement. Mais en revanche, elle me disait « ça serait bien quand même que t'aies ta liberté, comme si c'était exceptionnel. Sois libre de pouvoir partir, parce que regarde-moi avec ton père, etc. machin. Et la sécurité de l'emploi, c'est super, donc sois prof, surtout que sa sœur est prof, etc. Donc, on avait quand même beaucoup de profs autour de nous. Mais bon, moi, l'ennui abyssal, l'enfer sur Terre. Donc, pour revenir à ta question, mon quotidien à 20 ans, c'était ça. Donc, on faisait des fêtes, on picolait, lui cherchait des stages. Moi, je m'emmerdais à la fac. Et puis, à un moment, je me souviens, on était au Mexique, on faisait un voyage et tout. Et puis, il me dit, ouais, Agathe, il y a un Belge. Et moi, on avait un meilleur ami, un très, très bon ami qui habitait à Bruxelles. Et donc, il me dit, il a l'air hyper sympa. Viens, on lui demande s'il connaît Laurent, notre pote. Je dis, attends, les Bruxellois ne se connaissent pas tous entre eux. Je me souviens, il faisait chaud. Il y avait comme ça un ventilateur qui tournait et tout. J'étais là, on dormait dans des pensions à 12 pesos et tout. Et je sors, et là, je vois un gars torse nu avec un pantalon mexicain, une clope. Et il me fait, hi. Et je me dis, ok, bon, bah là, adieu. C'est fini, cette histoire va se terminer maintenant. Je vais quitter ce mec, me mettre avec ce nouveau bruxellois. Et donc, voilà, et je suis tombée, mais raide dingue de ce mec. Et après, j'ai quitté l'autre, je suis sortie avec lui, et je suis allée...
Il connaissait Laurent ou pas?
Pas du tout.
Moi, c'est ça que je veux savoir.
Non, évidemment, il ne le connaissait
pas. Je peux
pas
avoir une pensée linéaire, parfois.
Ouais, non, et donc, voilà. Et donc, tout ça pour te dire que le mec m'a larguée, parce que on a fini par sortir ensemble, il m'a larguée au bout de 2 mois. Mais je suis quand même allée vivre à Bruxelles.
Ah, c'est comme
pour
ça que tu finis à la télé.
C'est comme ça que je suis allée à Bruxelles.
Et RTBF, non.
Non, d'abord Énergie, où j'étais commerciale.
Radio.
Je vendais des... Je sais pas, de la pub en local, c'était n'importe quoi, à des flamands, je parlais pas flamand.
Ta carrière, moi, elle est épatante, je trouve. Parce qu'on voit vraiment, quand j'ai regardé sur Wikipédia, tu te retrouves à vraiment avoir l'évolution de
ouf.
Il n'y a pas de régression. Il n'y a qu'une évolution.
Ouais, il y a une stagnation quand même pendant un petit moment.
La stagnation, tu sais, ce n'est que de l'intégration de ce qu'on
a
déjà appris. Il n'y a
et
pas
puis
de stagnation.
La remise en question, elle a été nécessaire pour plein de choses.
Ah oui, il faut du temps parfois pour intégrer ce qu'on vit, parce que c'est quand même pas rien ce que tu fais. Tu ne fais que grimper là-dedans.
Mais j'étais très habitée par ça. Moi, j'avais vraiment envie de faire ce métier. Je voulais faire de la radio.
On est d'accord. Hein, qu'on t'entende et qu'on te voit.
Je voulais exister
comme
à
moi.
Tout prix.
Pareil. On le dit
mais
tout,
à tout
pareil.
Prix. Ouais, mais non, mais à tout prix. C'est-à-dire que vraiment, j'avais tellement l'impression, mais c'est ma, enfin, comme si ça venait réparer quelque chose. Et en fait, c'est pas ça qui répare, évidemment. C'est
surtout
mille autres choses.
Exister, comme tu dis, tu sais ce que ça veut dire. C'est exister, c'est
bien
vivre
sûr.
Au dehors.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas être.
Ah, mais bien sûr.
Voilà.
Et moi, j'avais tout intériorisé. C'est marrant ce que tu dis, parce que quand t'es fille unique, alors là, c'est les vertus de l'ennui et de la solitude, si tant est qu'il y en ait. C'est que forcément.
Quand elle est choisie, oui, pas quand elle est subie.
Voilà, quand elle est subie, t'es forcément en introspection et en observation de tout ce qui t'entoure, mais t'es très tournée sur toi. Et c'est pas sain.
C'est pas sain.
Tu vois, je me suis beaucoup trop écoutée, beaucoup trop regardée pendant des années.
D'où te vient cette peur de la mort et de la maladie, en fait ?
Alors, je pense que c'est parce que je pense que j'ai pas eu de période d'innocence. Pour avoir de l'innocence, je pense que petite, il faut avoir eu une enfance où il y en a eu un tout petit peu. Et moi, du plus loin que je me souvienne, j'ai une extra-lucidité sur le monde des adultes qui n'est pas du tout en adéquation avec mon âge.
C'est drôle parce qu'on dit que les addicts, ce sont des ados, des adultes qui n'auraient pas grandi. Et en fait, toi, tu es une adulte déjà enfant.
Ouais,
mais finalement, en grandissant, tu veux faire la fête comme une enfant.
Ouais, c'est exactement ça. Mais je me suis noyée aussi. Alors là-dedans, dans ce cocktail de fête, il y a, on en a parlé, l'envie d'exister, l'envie d'être aimé, mais aussi le plaisir, quoi. Parce que je veux dire, parfois, il faut être un peu pragmatique. C'est génial de faire la fête. C'est super chouette. Qu'est-ce qu'il y a de plus chouette que d'avoir des discussions légères et parfois très profondes en pleine nuit avec des gens, d'avoir l'impression de flotter sur un nuage, de rire, de danser, de vivre des émotions parfois. Enfin, moi,
c'est vrai.
Le plus beau, je me souviens que j'ai eu un slow avec un mec à une soirée. C'est le moment le plus érotique de ma vie. C'était une fin de soirée, la musique s'était éteinte.
Au Baron, j'imagine.
Ouais, non, c'était pas. C'est possible que c'était au Baron, ce soit au Baron d'ailleurs. Maintenant que tu me le dis, je me souviens
parce
plus.
Que j'ai vécu
au Montana.
La même scène. C'est pour ça ce qui s'appelait Ajit. C'était un Indien, toi aussi.
Non, non, pas du tout. Je peux pas trop dire qui c'est. Il est un peu connu.
Est-ce qu'on nous a vus des fois dans la même pièce, toi et moi ?
Non, c'est bien possible. Mais tu vois, ces moments-là, je les vis pas à 15 heures. Tu vois,
non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est là qu'on voit la différence entre l'addiction et le plaisir. Parce que si ça reste un plaisir, il n'y a pas addiction, il n'y a pas souffrance et les gens n'ont pas envie d'arrêter. Tu vois
oui,
ce que je veux dire?
Mais bon, c'est bien qu'on se perd.
Bah oui, mais voilà, mais je veux dire, s'il n'y a que du plaisir, de toute façon, ça n'existe pas que du plaisir. Souvent, on paye le prix du plaisir.
Mais bien sûr, non, mais parce que tout ça n'est pas bon pour la santé. Donc voilà.
C'est pas que la santé, hein. Bon, la santé mentale encore plus.
Et la santé mentale et la santé. Moi, j'ai. Enfin, je veux dire, les lendemains de cuite, moi, généralement, j'allais très bien. Parce
ah ouais.
qu'on reste. On a le truc de. Ah, putain, faut que j'appelle. Justine,
ah oui,
je pense à Justine parce que c'était
que
ma copine de fête. Voilà, tu sais pas ce qu'il m'a envoyé, tu sais pas ce qu'il m'a dit. Ah, bah, mort de rire quand t'es tombée. Ah ouais, c'était génial. On se réjouit quand même d'un truc qui est pathétique. Tu vois, je dirais.
Non, ça dépend à quel âge. Franchement,
oui.
moi, tant
oui.
que c'était à 20,
oui,
jusqu'à 30 ans,
ça.
Je trouvais ça drôle.
Ouais,
après,
c'est
je me trouvais pathétique
drôle.
Quand
ouais.
j'avais mon fils.
Oui, exactement. Mais bon, bah voilà, donc on ricane. Après, il y a le brunch parce qu'on a très très faim, on a besoin de gras. Et puis le dimanche soir, on commence un peu à.
Sauf si on l'a. On remet
Sauf
sa
si
petite
on remet
sœur.
Une bûche, évidemment.
une
et d'ailleurs,
les
fêtes du dimanche soir sont les meilleures.
Sont les meilleures, bah oui, parce qu'en fait,
parce
elles empêchent
sont pas
le
attendues.
Cafard du dimanche soir, déjà.
Et puis, c'est pas les mêmes gens. Moi, je me souviens, moi, j'adore
bah
les bars.
Bah oui.
En fait, j'adore les bars.
Toi aussi, t'étais du genre à aller toute seule dans les bars, à t'asseoir
non, alors,
boire un
seule,
verre et après, ça
non,
finit pas seule.
Toute seule, non, jamais
Merde,
j'ai fait ça.
Dévoilé.
Non, non, mais je comprends très
moi,
bien, en revanche.
Truc.
Mais j'adore, moi, les trucs, les bars Stella Artois. J'adore les vieux karaokés, j'adore le truc qui sent la bière et le bois et le tonneau, tu vois. C'est ma cam. C'est,
comme Marjorie.
Non, mais c'est vraiment ma cam. Et tu vois, c'est marrant. Là, on était à Venise avec mon mari et mes enfants, etc. On passait devant des bars et je disais, putain, mais qu'est-ce que j'aime. Là, je voudrais m'arrêter et être avec mon mec et faire la tournée des bars. Voilà, la tournée des bars,
Alors,
c'est ma
cam. Alors, tu tiens bien l'alcool parce que
hyper
moi, je
bien
peux pas faire ça. Voilà, c'est ça.
Hyper bien.
Ça change tout.
Moins maintenant parce que comme je me suis beaucoup calmée, forcément, mon corps est moins habitué. Mais j'avais une descente et j'aimais bien le dire. Hein.
C'est ça qui change tout. Hein. C'est que déjà, quand on tient... Après, ça rend les gens des fois alcooliques parce qu'ils tiennent trop bien. Mais moi, je sais
bien
que moi, ça m'a desservie parce que j'ai eu besoin de passer à quelque chose qui me maintienne en forme. Parce que comme toi, je voulais rester jusqu'au bout. Et sans cocaïne, c'était pas possible
ouais.
pour moi.
Alors moi, bon, je... j'ai toujours su où était ma limite. Enfin, j'ai pas toujours su où était ma limite, mais j'ai appris à voir où était ma limite parce que j'ai été tellement malade ado. Je me vois tellement en train de vomir dans les buissons avec ma copine qui me tient les cheveux. Ça va, Agathe? Je veux dire, voilà, on a tous vécu ça.
Non, pas tous, il paraît que non.
Il paraît que non, mais enfin bon, moi, en tout cas, dans mon entourage, c'était très, très, très normal. Et puis après, j'avais plus envie de vivre ça. Donc, j'ai toujours su m'arrêter à un moment où je me disais, oh là là, je vais être malade. Et donc, je l'ai encore, ça. Sauf que je m'arrête bien avant, maintenant.
Waouh!
Oh ouais, j'arrive.
On va y arriver aussi, comment tu as justement réussi ça. Donc, la fête, de toute façon, elle est là parce que tu t'ennuies quand même.
Enfin, oui,
tu peux pas rester seule.
Moi, je sais que, par exemple, pour te donner une idée, je ne peux pas regarder un film sans faire autre chose.
Ah!
Je ne peux pas regarder un film sans faire un mot croisé ou sans faire un. J'ai une addiction, là, qui est le Ruzzle, qui est un jeu que j'ai sur mon téléphone. Mais c'est une vraie addiction. J'ai fait, il faudrait que je regarde le nombre de parties. Je pense que tu hallucinerais, mais je pense que je suis à 400 000 parties.
Je vais rajouter un hashtag parce que j'avais mis alcool, cigarette, je vais rajouter Rosel.
Ah oui, non, mais c'est ce qui a remplacé la clope chez moi.
C'est génial. Donc, mais tu sais qu'il faut, c'est comme ça qu'on fait souvent. Les addictions, on les remplace par des autres moins graves et de moins en moins graves.
Exactement.
Donc le Rosel va pas te faire trop mal.
Ouais, non, le Rosel, c'est pas très grave. Mais en revanche, j'ai besoin de canaliser mon cerveau, en fait, parce que je pense que ça me fait pas de bien
si tu fais
de
rien.
Le laisser libre. Si
en regardant ton film, il se passe quoi?
J'y arrive pas.
C'est-à-dire, t'arrives pas à te concentrer sur le film?
Ouais, j'arrive pas à me concentrer sur le film.
Il y a un petit TDAH quand même.
Il y a un petit TDAH peut-être, enfin TDA.
TDA.
H, pas trop, parce que pas trop hyperactive. Mais en revanche, si je suis au cinéma, si tu mobilises tous mes sens, si j'ai pas le choix, je suis super contente.
Moi aussi.
Et je suis jamais plus heureuse. Mmh. Et par exemple, c'est terrible parce que j'adore la littérature, mais ça me demande un effort de ne faire que ça. Il faudrait que j'ai, comme les enfants TDA, un widget, quoi. C'est-à-dire un truc que tu peux manipuler pendant que je lis. Alors, je lis quand même parce que je me force, mais c'est comme le sport.
C'est dommage, ouais, j'arrive de devoir à se forcer. Mais moi, j'ai découvert les livres audio. Alors, c'est pas la même chose. Je vais pas dire. Je préférerais lire en vrai, hein. Mais je préfère en tout cas l'audio parce que je te jure que ça fonctionne pour les gens un peu comme... Enfin, moi, je suis comme toi. Donc,
Et c'est pour ça que je suis folle de podcast, parce que je peux faire quelque chose en écoutant mon podcast. Et c'est devenu mon principal vecteur de divertissement, mais aussi de culture. Parce que j'écoute vachement de philosophie, j'écoute vachement d'histoire. Donc, bon, bah...
T'es passionnée par quel sujet, justement? La philo?
Moi, j'aime les récits. Donc, si vraiment tu me demandes ce que j'écoute le plus, c'est les histoires de vie. Donc, et c'est pour ça que j'en produis moi aussi. C'est parce que j'aime plonger dans l'univers de l'autre. Ça me passionne.
Donc, c'est surtout, Ex. Donc
alors,
podcast,
c'est Ex et aussi et les aussi, et rescapés. Ou les rescapés, là. Alors, ce qui me passionne dans les rescapés, c'est pas tellement le côté résilient. C'est la vie, à un moment, peut te mettre face à des trucs horribles. En règle générale, ils ont tous failli mourir. Et grâce à ça, ils sont plus heureux. Fascination. Mais pour une anxieuse comme moi, tu te dis, mais comment est-ce qu'on arrive à être plus heureux après? C'est quelque chose qui me... Alors, c'est pour ça que dans Les Rescapés, on parlera jamais d'un deuil, tu vois, qu'on a vécu, parce que ça, je pense pas que ça puisse rendre plus heureux. En revanche, quand t'as frôlé la mort, bah, il se passe quelque chose dans ta vie qui est... pour beaucoup de personnes, assez inouï quand même. C'est que...
Le deuil peut amener... Je crois qu'on confond le bonheur avec une espèce d'apaisement, tout simplement, face à la vie.
Oui, c'est vrai.
On confond ça, parce que c'est plus intéressant l'apaisement que le bonheur. Mais je pense que les deuils te font voir quelque chose, vont t'amener justement te confronter à quelque chose de tellement profond que tu vas en ressortir finalement.
Peut-être, ouais.
Oui, mais de toute façon...
Mais est-ce que tu peux être plus heureux après? Je sais
pas. Moi, je pense que souvent, les gens... ce dont je me rends compte, c'est que en fait, je n'étais pas heureuse avant. C'est-à-dire, je faisais semblant de l'être. Je ne m'étais pas posé la question. Donc, quelque part, je me rends compte qu'aujourd'hui, je peux pleurer de joie de quelque chose de très, très vrai qui ne m'était jamais arrivé avant. C'est-à-dire qu'avant, j'étais heureuse grâce à des choses. Donc, je suis heureuse d'avoir vendu 650 000 albums. Je suis heureuse parce que mon mec est amoureux. Je suis heureuse parce que je me marie. Je suis heureuse parce que. Et à un moment donné, quand on vit des épreuves, et moi, c'est grâce aux épreuves, en tout cas.
Oui, il n'y a plus de parce que.
Je n'ai pas besoin d'une excuse pour être heureuse. Des fois, je suis là et je me dis, putain de merde, je n'ai jamais été aussi heureuse que cet instant-là.
Ouais, ouais. Mais
et
moi,
pourquoi,
j'ai ça aussi.
Je ne sais pas.
Mais je pense que c'est aussi... Et c'est pour ça qu'on dit que les 45-65 ans, c'est les deux décennies les plus
merveilleuse
de la vie, c'est parce que justement on
si
a
seulement
fait
on n'avait pas cette gueule.
Ouais, c'est ça. Putain, et ce bras qui tombe.
Ce bras qui tombe.
Et ce fameux triceps.
Mais non, mais t'as raison. Mais parce qu'on devient philosophe. En fait, c'est la sagesse qui vient remplacer.
L'équilibre.
Mais on n'aurait pas aimé être sage à 20 ans. Moi, tu m'aurais dit, tu vas lire Christiane Singer toute la journée, et puis tu vas pas vouloir faire la fête et pas vouloir faire l'apéro. Mais moi, j'ai une question pour toi, parce que sur son Instagram, tu mets la vraie vie, l'apéro. Moi, je veux savoir. Est-ce que vraiment, pour toi, c'est la vraie vie, l'apéro ?
Oui, parce que dans l'apéro, il y a tout ce qui me fait pleurer de joie, justement. Il y a l'échange, il y a mes potes, et il y a toute cette famille que je me suis reconstruite. Et pour moi, quand même, je continue à dire que ce qu'il y a de mieux, c'est l'apéro. Alors après, ce qui est terrible là-dedans, c'est que on valorise, on sacralise quelque chose qui est mauvais pour nous.
Pourquoi pas ? C'est pas vrai.
Mais j'ai l'impression que la nouvelle génération déconstruit un petit peu toutes ces choses-là et c'est quand même pas mal. Tu sais, le truc qui s'est passé là avec Léa Salamé dans son émission où elle a dit « Ah, vous êtes devenu chiant parce que vous buvez plus ». Je comprends qu'elle ait dit ça. Moi, je l'ai dit un milliard de fois. « Quoi ? Tu bois pas ? Mais t'es chiant et tout, tu deviens chiant ». En fait, il faudrait quand même arrêter de dire que c'est bien de prendre quelque chose qui est mauvais pour soi, parce qu'on est là, on s'enfonce trop dans le paradoxe. Mais moi, dans l'apéro, je vois pas forcément l'alcool, je vois c'est exceptionnel, je vois la notion de récompense, je vois la notion de... quand même, la vie, c'est abyssal, quoi. Vivre, c'est une peur abyssale permanente, quoi. Franchement, si on
se raccroche pas des moments comme ça, ça sert à rien.
Mais bien sûr. Mmh. Et en fait, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui, quand on a justement cette peur abyssale, quand on se dit, j'ai 50 ans, donc je sais très bien que c'est la dernière partie de ma vie, on pourra me dire qu'elle est formidable, mais enfin, il n'empêche que là, je vais pas en m'améliorant, que je vais avoir des douleurs dans les hanches,
Tu t'améliores pas peut-être dans le corps, mais en fait, moi, je pense qu'au contraire, on grandit plus que vieillir par rapport à la façon dont on pense. Je sais pas si tu vois les moments de ta vie où t'étais là à vouloir mourir pour un truc. Et quand tu regardes ça aujourd'hui, je dis, mais mon Dieu, je pourrais plus le faire.
Mais moi, ce que j'ai perdu, c'est, j'appelle ça les préoccupations terriennes.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le boulot, trouver un mec, je suis fatiguée, tout ça, tous ces trucs-là. Pour moi, ça n'a plus aucun intérêt. D'ailleurs, mon entourage m'a proposé une grosse émission, etc. Je dis, mais il n'y a pas un cas où je vais rompre l'équilibre que j'ai trouvé, la liberté que j'ai pour une ambition que je n'ai... Enfin, voilà,
Mais je te félicite dans le sens où ça veut dire que tu as justement trouvé cette sagesse-là et cet équilibre.
Ah oui, vraiment.
Parce que moi, je suis exactement comme ça. Et les gens, malheureusement...
Ils comprennent pas.
En fait, aujourd'hui, les valeurs qui font marcher le monde, c'est le pouvoir, le sexe et l'argent.
Ouais.
Voilà. Donc.
Mais moi, je suis pas. Alors bon, après, j'ai la liberté parce que justement, je suis arrivée à un niveau de pouvoir et d'argent qui me permet tout simplement d'être libre.
T'es honnête en plus.
Aujourd'hui, forcément, quand on fait de la télévision, on gagne bien sa vie. Après, ce sont des métiers précaires. Donc, c'est pour ça que je fais plein d'autres choses, parce que j'ai peur que ça s'arrête. Mais en tout cas, aujourd'hui, au moment où on se parle, j'ai pas de problème à ce niveau-là. En tout cas, j'ai pas de problème. Si jamais il m'arrive une tuile, ça m'empêche pas de dormir. Quelle liberté. En revanche, j'ai plus l'ambition d'aller plus haut, plus fort, plus loin. Je m'en fous. J'ai compris que c'est pas là-dedans que je me réalisais. Moi, ma quête d'équilibre, c'est-à-dire ni trop de bonheur, ni trop d'angoisse, ni trop de malheur, je crois que j'ai réussi pour le moment à l'avoir. Après, la vie est encore longue, il y a des deuils, il y a plein de choses qui peuvent rompre cet équilibre. Donc, il faut se préparer. Mais non,
En fait, il y a plein de choses qui peuvent arriver, mais si dans ta tête, c'est l'équilibre et tu peux maintenir cet équilibre malgré les événements de la vie, quoi, tu vois.
J'espère, pour le moment, je m'y suis pas encore frottée.
Et quand ça viendra, en fait, on agit tous comme il faut quand ça vient. Mais je veux dire, de s'angoisser avant, c'est une double peine. Parce que non seulement tu peux rien y faire, deuxièmement, tu t'angoisses en amont, donc doublement, quoi. Alors qu'il sera toujours temps le moment venu, tu vois.
Ouais. Et ce qui doit arriver, arrive.
Alors voilà. Et tout surtout simplement. En parlant de vie et de mort.
Exactement.
Là, s'il y a bien quelque chose sur lequel on n'a rien...
On ne va pas en réchapper, ça c'est sûr.
Tellement, tellement, tellement. Mais Franck Levet on parle très très bien et je veux cet épisode, je maintiens que c'est mon épisode fétiche pour l'instant. Je suis désolée pour les autres. Alors moi, je veux savoir comment tu as arrêté la cigarette, qui veux-tu as fumé pendant combien 30, te...
Non. Alors, attends, si, quand même, attends.
En fait, tu vois, quand tu as des addictologues pour tout, et en fait, la cigarette, eh ben, c'est beaucoup plus difficile. Il n'y a pas des groupes d'entraide, c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Alors, en fait, la cigarette, je pense que la première étape, en tout cas, c'est ce que j'ai fait, c'est d'arriver à décortiquer les raisons pour lesquelles on fume. Donc, moi, première chose, je fume parce que mes parents fumaient, parce que ma mère, avec sa chevalière et son bracelet avec les médailles là qui pendaient, son vernis à ongles, je trouvais ça canon, quoi. Elle avait sa gitane et elle avait des mains magnifiques. Enfin, elle a des mains magnifiques et donc elle fumait. Je trouvais ça vraiment fatal, quoi. Donc, moi, j'ai voulu faire comme elle. Donc, il y a quand même un truc de « c'est chic ». Donc déjà se dire bon bah finalement en fait ouais c'est chic pourquoi bon finalement est-ce que les gens me regardent vraiment en train de fumer non ils s'en tapent premier boulot ensuite moi chaque cigarette est liée à une émotion donc j'ai peur je fume je suis contente je fume je viens de faire une émission c'était très très dur je fume voilà
récompense tout le temps
récompense évidemment circuit de la récompense on connaît par cœur mais donc quand tu es extrêmement émotif comme c'est mon cas et que chaque clope va avec une émotion d'abord tu fumes beaucoup parce que t'en as beaucoup dans la journée et surtout c'est une béquille merveilleuse donc je me suis dit ça va être très compliqué parce que je vais perdre ma meilleure amie ma béquille quoi le truc sur lequel je me repose et évidemment la clope va avec l'alcool les apéros étant mes moments de vie préférés comment est-ce que enfin pour moi un apéro sans clope c'était impossible. Et donc, j'ai déjà commencé à me dire ça. Et donc, je me suis dit, de toute façon, comme il faut que je n'ai pas de cancer du poumon, voilà.
Il faut que je n'ai pas de cancer.
Il faut que j'arrête.
C'est pas il faut pas que j'ai un cancer du poumon. C'est il faut que je n'ai pas. C'est merveilleux.
Voilà. Non, mais c'est vraiment, moi, le moteur, ce n'est que la peur. Et donc, et l'hypocondrie. Et donc, je me dis, bon, là, il va falloir que j'arrête. Je suis pas prête. Et donc, en fait, le truc que j'ai fait de génial et que je donne à tout le monde comme astuce, c'est de se fixer une date dans très longtemps. Je pense qu'on était en... La première fois que j'ai arrêté vraiment, j'ai arrêté pendant 2 ans, j'avais 36 ans. Je sais pas, je te dis n'importe quoi. On était en décembre 2010. Et j'ai dit, j'arrêterai le 15 septembre 2012. Tu vois, c'est vraiment... J'arrêterai dans super longtemps. Mais mine de rien, ce 15 septembre 2012, je l'ai dans la tête pendant tous ces mois. Et quand on me dit, Agathe, c'est tout, tu fumes trop, tu devrais arrêter de fumer. Je dis, non, mais t'inquiète pas, je vais arrêter. Mais quand
le 15 septembre 2012, enfin.
Okay. Et en fait, plus la date se rapproche, plus il y a un petit truc un peu excitant. Ça fait tellement longtemps.
Ouais, les gars, vous savez ce que je vais faire.
Tu te dis, tiens, qu'est-ce que ça va me faire d'arrêter?
C'est un peu comme si tu avais programmé un saut en parachute.
Mais voilà, tu vois, tu dis, bon, j'ai peur. Mais... Et donc, tu deviens assez excité quelques jours avant. Puis là, c'est le jour J. Et il y a quelque chose d'assez sacré, tu vois, où t'écrases ta dernière clope et tout.
Puis il y a aussi, je veux prouver à tout le monde que je l'ai dit à tout le monde.
Et en plus, je l'ai dit à tout le monde, donc vous allez arrêter de croire que voilà. Et puis bon, là, il faut plusieurs arrêts, faut pas culpabiliser. C'est vrai qu'au bout de 3 mois, on se dit, mais pourquoi j'ai fumé? Tiens, d'ailleurs, je vais refumer pour voir. Ça fait mal aux poumons, on reprend. Il y a ça au bout de 6 mois aussi. Il faut le savoir, pas le faire.
Il paraît que plus on arrête, plus on a de chance d'arrêter. Voilà. C'est important.
Donc, moi, j'ai arrêté après, avant
mes... Ce ne sont pas des échecs.
Ce ne sont pas des échecs. Moi, c'est vraiment ce gros arrêt. Mais après, je me souviens aussi d'avoir recommencé et de me réveiller le matin en me disant « Quel bonheur de putain !»
De savoir que t'allais fumer aujourd'hui.
Je me dis « C'est vrai, je refume, mais quel bonheur !» Quel pied, j'étais tellement contente. Et j'ai refumé parce qu'on m'a fait goûter un pétard. Donc, je le dis à tous les gens qui sont des fumeurs de cigarettes, etc. Ne fume pas non plus de pétard.
Non plus, non.
Parce qu'une taf de pétard, c'est une taf de clope. Et je me souviens que j'avais mal à la gorge et j'ai un copain qui m'a dit, mais prends cette herbe, elle est géniale. Elle soigne toutes les...
Oui.
Toutes les...
Surtout les maux de gorge.
Voilà, les maux de gorge. Et il se trouve que c'était une herbe qui faisait beaucoup rire. Donc, qui était vraiment quelque chose de formidable sur le moment. Mais moi, c'était plutôt la clope qui m'intéressait. Donc, j'ai refumé dès le lendemain. Donc,
voilà, il y a beaucoup de gens comme ça qui ont repris la clope en fumant des jours. Je vais te dire quelque chose qui va vraiment pas te plaire. Moi, j'ai arrêté de fumer aussi une première fois en 2020, au moment du Covid. Mais avant de savoir qu'on allait être confinés, donc c'était drôle, j'ai arrêté de fumer. Et j'ai repris le tabac quand on m'a annoncé que j'avais un cancer du sein.
Ah oui.
C'est pas mal, ça te plaît ça, hein?
Ouais, c'est-à-dire que là, mais peut-être à la limite, quand tu reçois une déflagration comme ça... peut-être que c'était une façon de conjurer pour toi, non?
Je sais pas.
Où tu t'es dit, allez, putain, en fait,
je sentais que non, alors pas du tout. Je pensais pas que j'allais mourir. En plus, moi, je suis pas du tout comme ça. Je suis plutôt l'inverse. Hein. Malheureusement, je vois jamais le danger. Donc, je suis très, 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 très laxiste, même avec mon fils et tout. Genre, je perds mon fils, je suis là, je dis, mais il est où?
Mais donc, t'as moins d'angoisse habituelle.
Jamais d'angoisse. Non, mais moi, je t'ai dit, je suis la team mélancolie. En fait, il y a deux teams. Il y a ceux qui ont de la tristesse, ils sont tournés vers le passé. Il y a ceux qui ont de l'angoisse, ils sont tournés vers l'avenir.
C'est ça.
Il y a deux teams.
Ouais.
Moi, aujourd'hui, vraiment, je pense qu'en plus, je suis au milieu, je suis contente. Et ce moment-là, non, je me suis juste dit, je pense que je vais en chier. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi, ce qui m'angoissait, c'est l'administratif.
Donc, t'as pensé à ça, toi.
Tout de suite, il va falloir prendre des rendez-vous. Mon Dieu, d'ailleurs, ma soeur a tout pris en main. Je ne pouvais pas imaginer passer les coups de fil, les rendez-vous et les scanners. Et je me suis dit, ça va être chiant, là, les mois qui vont venir si je fume pas. Ça va être l'enfer.
Non, mais cela dit, écoute, je suis sûre que c'est quand même une béquille, malgré tout. Hein.
Bah, c'est, en fait,
ça
c'est une béquille.
Ça t'a certainement aidé, quand même.
Bien sûr, c'est une béquille, mais c'est un soulagement, mais elle soulage le manque qu'elle crée. Tu sais.
Oui, je sais.
Eh bien, j'ai arrêté, figure-toi, opposé de toi. Au lieu de préparer une date à long terme, un jour, je me suis réveillée, le 4 juin, j'ai dit, OK, je vais m'inscrire à une salle de sport. L'argent que je ne mets pas dans la club, j'ai échangé salle de sport club, 4 juin. Ça fait un an. Et voilà, là, pour moi, j'ai l'impression, plus que pour tout le reste, que c'est une bénédiction et que c'est un miracle d'être libérée de la cigarette.
Ouais.
Parce que je ne vapote même pas. Hein,
Non, moi non plus. De toute façon, je pense que si on veut arrêter de fumer, il ne faut surtout pas vapoter. C'est une addiction qui en remplace une autre. Après,
Beaucoup moins grave. C'est ce qu'on dit pour l'instant.
Mais on aura
tous des cancers pomme-banane, n'est-ce pas?
Mais bien sûr. Et puis, je veux dire, après, le jour où tu n'arrives pas à recharger, on dit vaporette, c'est ça? Non, vaporette.
Il y en a beaucoup qui vont acheter un paquet de...
Ouais, vaporette. Vapoteuse. Hein. Non, mais le jour où tu n'arrives pas à recharger ta vapoteuse, forcément, tu prends une clope.
Bon, toi, tu bois, parce que moi, Venise, je l'ai fait sans boire, et c'était l'enfer. D'ailleurs, je buvais un petit truc, un espèce de spritz sans alcool orange, trop mignon, que les enfants boivent.
Oui, je vois ce
qui ressemble à un spritz.
Ouais, très bien.
Mais j'avais bien les boules.
Non, moi, j'ai réussi, mais je saurais pas te dire comment. Je pense que c'est aussi mon obsession de la santé, mais j'ai réussi à boire modérément. C'est-à-dire que j'ai réussi ça maintenant. Dès que je bois, c'est que du plaisir. Et d'ailleurs, j'ai découvert ça. Parce qu'en fait, quand on a une consommation excessive, on est quand même toujours un peu dans le contrôle, quoi. C'est-à-dire qu'en filigrane de ma vie, il y avait « Tu veux un verre de rosé, Agathe ?»« Putain, j'ai envie, mais comme ce soir, je sors, je vais peut-être pas boire là maintenant, etc. » Donc en fait, on est tout le temps dans le calcul, vu qu'on a une consommation trop importante. Le jour où on a une consommation normale... C'est-à-dire qu'en fait, moi, la semaine, je bois pas. C'est même pas un sujet. Si j'ai un dîner, je bois. Mais comme j'évite les dîners parce que j'ai une quotidienne et que voilà. Et je m'ouvre plus de bouteilles de vin avec mon mec, etc.
Mais donc ça, c'est une question aussi.
Ouais,
Comment ? Parce que moi, personnellement, si j'avais pas de problème d'alcool, je m'ouvrirais une bouteille de vin tous les soirs. Donc j'aurais un problème d'alcool.
Ouais, mais donc. Non, mais en fait, moi, je pense que c'était. Moi, c'est très culturel. C'est pour ça que je pense que c'est quand même important de déconstruire culturellement le côté positif de l'alcool. C'est quand même un truc qui est très mauvais pour la santé. Enfin, je veux dire, c'est du poison. Et on le diabolise pas assez, c'est vrai. Et je te dis ça, je suis la première à aimer boire mon petit apéro.
C'est pas un poison si on y va doucement. Enfin, c'est un poison.
C'est très modérément si t'écoutes les médecins.
Pas plus que des fruits et légumes.
Plein de pesticides.
Oui, tu vois ce que je veux te dire. Moi, ça m'inquiète. Moi, ça m'inquiète pas. Ça.
Ben, en fait, toutes les études prouvent quand même que c'est un poison.
C'est cancérigène.
Donc, mais aujourd'hui. Que ma consommation n'est plus excessive. Si j'ai envie d'un verre de vin, ou tu vois, si je déjeune avec toi demain et que tu me dis, mais ça ne sera pas le cas, mais on boit un petit verre de rosé, ah ben ouais, cool, puisque de toute façon, ce soir, il n'y aura
Pourquoi
pas.
Tu me donnes l'idée, là.
C'est vrai que là, avec la chaleur de ton studio.
Arrête ! Tu sais que ce genre de stimuli sont très dangereux pour les addicts.
Ouais.
Très dangereux. Mais moi, là, en ce moment, je suis inébranlable. J'ai très envie. Ah ouais, j'ai très envie de passer un été comme ça, comme j'en ai déjà passé pas mal, sans alcool et de me dire, en fait, tu vois, ce moment où c'est plus une question. C'est-à-dire, tu vas faire l'apéro avec les gens, tu t'amuses, tu vas à la plage, tu fais tout comme tout le monde, mais tu bois pas, mais tu te poses même pas la question.
Ça t'y arrive, là, aujourd'hui,
à plus te poser
la question.
Bah oui, bah, c'est quand
tu
as
souffres
longue...
pas.
Ah bah non. Tu souffres quand, justement, t'es dans le contrôle et que tu décides de boire un peu, mais pas trop. Tu vois, j'ai essayé plein de fois de me dire, allez, là, tu peux, maintenant, tu sais comment boire. Et en fait, dans ces moments-là, non seulement il y a des dérapages qui sont vraiment très nocifs et qui, moi, en tout cas, me pourrissent la vie pour les jours à venir, vraiment, et qui font tout s'écrouler, mais en plus... Tu passes des très mauvais moments en général dans ta vie parce que tu penses qu'à ça. Tu te dis quand est-ce que je vais boire ? Non, mais là, j'ai pas le droit. Ben, comme tu viens de le dire, tu vois, puisque moi, je sais pas boire modérément. Donc, en fait, pour moi, c'est impossible.
Moi, je pensais, tu vois, il y a 10 ans, je t'aurais dit exactement cette phrase. Je ne sais pas m'arrêter.
Non, mais tu as peur. Et l'addict n'a même pas peur de mourir.
Ouais, moi, j'ai peur de mourir tout le temps.
Moi, je fais hyper attention à ce que je mange.
Depuis que tu as des enfants, j'imagine.
Ouais. Les gens disaient, mais c'est pour la télé. Je ne sais plus qui m'a dit, mais c'est parce que, en fait, tu fais attention à ce que tu manges pour être mince. Bah. Je dis, mais pas du tout, mon Dieu. Enfin, c'est super d'être mince. Enfin, je préfère, oui, je préférerais être gaulée. C'est pas le problème. Mais moi, mon but, c'est uniquement la santé. Je me dis, attends, là, j'ai mangé un petit peu d'oméga 3. J'ai eu un dîner hier. Donc, c'est un peu chiant, quand même, ma vie. Tu
vois, j'ai eu ma dose de légumineuses.
Mais c'est exactement ça. Mais tu ne crois pas si bien dire. Tiens, j'ai mangé des lentilles parce que quand même, c'est beaucoup de vertus. Oui, j'ai pris du pain au petit épeautre.
Bah moi, honnêtement, lentilles et petit épeautre, c'est ma vie. Mais bon,
mais oui.
C'est pas grave, j'aime ça, donc je mange
moi
ça.
Moi aussi, j'adore ça.
J'adore ça, mais je veux savoir si t'es addict à d'autres choses dans ta vie aujourd'hui en termes d'aliments ou de compléments alimentaires ou de sport, de choses qui sont bonnes pour toi, mais que tu fais à outrance.
Ouais, alors non, à outrance, le sport, je le fais vraiment pas à outrance. Je le fais, je me force à en faire parce
Quel sport ?
Du yoga. Là, en ce moment, c'est un peu l'elliptique et tout, mais je marche beaucoup, je vais dans la forêt.
Ah, oh, toi aussi ?
Moi, j'adore ça.
C'est que ça ?
Mais c'est pas une addiction. Enfin, je veux dire, quand je le fais, je suis super heureuse et de ça, mais c'est pas une addiction.
Si je le fais pas, il y a des jours... Enfin, c'est un peu cette addiction des 10 000 pas, là. C'est horrible.
Oui, ouais.
C'est-à-dire, quand je regarde mes pas le soir et que je suis en dessous de 10 000, je suis pas très bien.
Non, mais moi, c'est un sujet. C'est un sujet, mais c'est pas non plus une obsession. Tu vois,
non, voilà, exactement. Mais c'est un sujet.
Mais c'est un sujet. Mais si on n'est pas créé une addiction, c'est une addiction très saine, hein, super.
Parce que t'es très mince.
Mais je suis très mince là en ce moment. Je viens de perdre 2 kilos parce que je suis un peu stressée par des trucs et tout ça. Et moi, dès que je suis stressée, youpi, 2-3 kilos en moins. Moi, c'est chagrin d'amour et stress. T'es sûr que là, je suis.
Moi, chagrin d'amour, oui, mais alors stress. Enfin, en tout cas, en général, si je vais pas bien, je mange.
Ah non, mais moi, là, tout ce que je mange, je vais pas le garder. Je vais pas le garder, je vais le garder dans mon corps, mais toutes les calories vont s'évaporer. Donc, je sais pas, c'est magique.
Elle vomit, en fait, on le saura qu'à la fin.
Elle ne le dira jamais. Mais j'ai pas d'addiction au sucre. Je pense pas que j'ai une âme très addict. Je pense que j'ai baigné dans un monde qui est celui des années 80, où tout ça est très normal et où le bonheur, en tout cas, tout ça, ça fait partie du bonheur et de la quête du bonheur, c'est de faire la fête et tout ça. Et en même temps, je l'assume énormément. Et c'est d'ailleurs, aujourd'hui, quand je parle de mes parents qui ont, comme tous les parents, de grands manquements, mais tout est digéré, pardonné, etc. Mais donc, tout ce que je garde de mes parents de chouette, c'est justement le côté festif, c'est ces grandes fêtes, ces grandes tablées, ils chantaient. Et ben moi, je ne me départirais pas de ça. Mm-hmm. Et j'essaye de le transmettre, le goût de la bonne cuisine. Mais sauf que je fais un peu de prévention à côté. Par exemple, j'ai autour de moi des personnes, dont une en particulier, qui... Alors, si je te donne sa conso, par exemple, quand moi, je suis à un verre de vin, elle est vraiment... aux trois quarts de la bouteille. Et j'exagère absolument pas. Elle boit une vitesse. Donc, ça veut dire que là, on est juste à l'apéro. Après, il va y avoir le dîner. Généralement, quand elle est là, on va danser. Elle va boire trois bouteilles. Elle aura bu aussi à midi.
Mais elle prend de la drogue ?
Non, elle prend aucune drogue.
Comment font les gens ?
Elle se réveille le lendemain matin. Elle est fraîche comme la rose. Elle est toujours de bonne humeur. Elle est toujours chouette.
Bon,
elle est toujours
à mourir. Faut la laisser,
Faut la laisser. Non, parce qu'en fait, si elle est là, tu
si vois,
elle
est heureuse.
Mais après, quand on parle au médecin, ils te disent, mais ouais, mais un jour, tu payes l'addition.
C'est la santé, encore une fois. Ouais. Mais quand elle paiera l'addition, il sera toujours temps de la payer, en fait.
Bah,
mais ça, c'est
pas.
Encore Franck. Dans l'épisode, il dit, je sais que quand l'addition se présentera à moi, je la paierai. En fait, non, mais c'est vrai, la prévention, c'est pas mon truc. Anticiper, c'est pas mon truc. C'est vraiment, je pense qu'on a assez de problèmes dans la vie à régler le jour J.
Alors que moi, pour le coup, vraiment, ma vie consiste à faire de la prévention pour ma propre vie, tu vois.
Ouais.
Mais ça, c'est les anxieux, forcément.
Ouais, je comprends, mais non, je comprends pas. C'est vrai.
Bah, ça qu'en fait, non, tu peux.
Non, mais c'est vrai, je fais semblant, je peux pas comprendre.
Non, mais bien sûr, parce que c'est pas toi. Mais en fait, l'anxiété, soit tu l'as subie et puis t'essayes d'être dans le déni. Et de l'oublier le plus
possible. C'est très bien de l'accepter.
Soit tu l'acceptes et puis tu la prends en charge.
Exactement.
Et pour la prendre en charge, il y a quand même...
Tu sais ce qu'il faut faire pour que tu sois tranquille, toi.
Ouais, moi je suis tranquille.
Tu fais tes check-up, tes machins, tu es énergéticien.
Bien sûr.
Alors donc tu es aussi médecine parallèle beaucoup ?
Énormément. J'ai une merveilleuse femme grecque qui parle avec les anges et qui me fait qui est énergéticienne,
très bien.
C'est pas bien, mais
celle-là je la veux.
Ouais, elle est fantastique, c'est un aspirateur à stress, elle est extraordinaire. J'ai une
acupunctrice. T'es sûre qu'elle aspire pas le stress des autres, qu'elle te le met pas à toi ?
Non, parce qu'elle a la main qui gonfle après. Et ça, tu le vois.
Et toi, tu te sens légère.
Et toi, quand elle te met la main sur la cheville, on dirait, c'est comme si elle t'aspirait.
Est-ce qu'elle aspire aussi la cellulite ?
J'aimerais bien.
Attends, mais on va mettre le lien de cette femme grecque dans le podcast,
elle est
si nous la faut.
Elle est extraordinaire. Donc, j'ai elle. Donc, c'est une espèce de garante, comme ça, de tout va bien se passer. une acupunctrice, donc ça c'est un peu plus santé, et après des expériences. J'ai tout fait, j'ai fait des scanners quantiques, j'ai fait des...
Le scanner quantique.
C'est donc...
C'est en plus de tes check-up normaux.
Bien sûr, parce que parallèlement à ça, je vois des vrais médecins.
Tu ferais des vrais IRM. Genre, t'es du genre à demander... Je peux refaire un IRM cette année? Une IRM, pardon.
Oui, parce qu'en fait, il y a une addiction, c'est terrible. Il y a une addiction, quand tu es hypochondriaque, il y a une addiction aux résultats, évidemment, positifs...
T'attends les
résultats. ...de l'IRM ou du scanner. Et c'est horrible.
T'es très amie avec Michel Drucker, quoi.
Ouais. Je sais pas si j'ai le même type d'hypochondrie... que lui, parce que lui, j'ai pas l'impression qu'il sorte beaucoup du cadre. Moi, pour moi, l'équilibre, c'est aussi un moment péter les plombs. Tu vois, là, ce week-end, par exemple, j'ai un week-end hyper festif, je vais fêter mes 50 ans, on sera 40 dans un hôtel, voilà. Et je sais que je vais picoler tout le week-end et c'est merveilleux parce que c'est assumé et que ça va être fantastique. Je pense pas que Michel Drucker fasse ça. Donc, il était dans un truc, à mon avis, quand même très à 7.
Donc, t'as cette chance quand même de pouvoir faire la fête. Enfin, j'ai envie de dire la chance. Je sais pas, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je considère que j'ai de la chance d'être allergique à l'alcool, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, comme quand les gens, ils sont allergiques au sucre, quelque part, je les envie, parce que moi, je suis addict au sucre.
Ouais.
Donc, je les envie de me dire, j'aimerais ne pas avoir le droit de prendre cette tablette de chocolat, tu
vois. Ouais, c'est ça.
Et en fait, de me dire que je suis allergique à l'alcool, moi, ça me fait du bien parce que je pense comme toi, quelque part, que c'est un poison dont je n'ai pas besoin, et comme je suis sur une voie un peu spirituelle et que je fais d'autres choses, et ben en fait j'ai des highs. Après c'est des highs qui sont beaucoup moins festifs et rock'n'roll.
Ouais.
Je te l'accorde.
Oui, je sais pas, moi aussi en fait il y a la bibliothérapie, c'est super. Tu vois, je pense que la philosophie pour les addicts, c'est exceptionnel.
C'est la base.
Moi, Ali Rebbi, à une période où j'allais pas très bien, m'a fait justement une bibliothérapie. Malheureusement, c'est horrible parce qu'en bonne TDA, je ne retiens rien. Et en fait, c'est des soulagements sur le moment. Donc, toute cette littérature que j'ingurgite et qui me nourrit tellement, etc., et dont j'ai tant besoin, ça passe et ça m'énerve de pas me... que ça ne s'inscrive pas en moi.
Alors, laisse tomber comment tu viens de décrire l'addiction, en fait.
Ouais, hein. C'est ça.
C'est-à-dire que j'ai la même chose. Et donc, l'addiction, c'est ça. Hein. C'est un shoot qui te remplit, ouais, qui te soulage sur le moment et qu'il va falloir réitérer toute ta
exactement
vie. Donc le but étant de trouver ce soulagement en soi. C'est une Christiane Singer, je répète cette phrase merveilleuse.
Je vais dire parce que je la connais pas.
Nous ne voulons pas mourir de soif, devenons notre propre source.
Oui, exactement.
Donc moi je pense qu'on peut tout à fait terminer là-dessus, même si j'aimerais parler avec toi des heures, j'aimerais qu'on puisse aller marcher ensemble, je veux que tu sois ma meilleure amie. Je
vais
tu veux, je peux même me remettre à boire pour être ton amie.
Non, tu sais quoi, que je suis devenue la relou de service et que je passe ma vie à emmerder mes copines pour qu'elles arrêtent de boire et de fumer. J'ai réussi à ce que ma meilleure amie arrête de fumer.
T'as beaucoup d'amis, hein?
J'ai pas mal d'amis filles.
Ouais. Et est-ce que, dernière question, est-ce que tu penses que tu pourrais m'avoir Virginie Efira?
Écoute, je vais lui demander.
Parce que je sais qu'elle est rock'n'roll.
Elle est rock. Elle buvait toujours avant. Moi aussi, d'ailleurs, je faisais ça. Moi, pendant des années, avant d'avoir un rendez-vous avec un mec, je buvais chez moi. Et elle faisait ça. Il y avait pas. Elle a une grande timidité et on s'est rejoint vachement là-dedans. On était ultra timide.
Je l'adore. Alors vraiment, quand je te dis je l'adore, c'est...
Mais t'as raison de l'adorer parce qu'elle est...
Elle est complexe. J'aime énormément cette femme.
Ouais.
Eh bien, écoute, tu lui demanderas. Je serai ravie de la recevoir. Je suis persuadée qu'elle a plein de choses à dire.
Oui, elle a plein de choses à dire.
Eh bien, mes amis, nous allons nous quitter.
Déjà, écoute.
C'était merveilleux, je suis ravie.
Moi aussi, merci beaucoup de m'avoir reçue.
À la prochaine.
Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et de Contradiction.
C'était l'émission Contre Addiction avec Rose sur IDFM Radio. Rendez-vous lundi prochain de 21h à 22h. Retrouvez le podcast sur rose-lecite.fr et idfm98.fr. IDFM Radio, par nous, pour nous. Bonjour à tous, c'est Laetitia et Myriam sur IDFM Radio. On vous donne rendez-vous pour l'émission Femmes en Lumière tous les mardis à 18h.
Une émission dédiée aux femmes inspirantes et à leur parcours, à retrouver tous les mardis, donc de 18h à 18h30. L'occasion de mettre sous les projecteurs les femmes de notre région et d'ailleurs.
À très vite sur IDFM Radio.
Bonjour, c'est Jacqueline Voraz sur IDFM Radio. Vous souhaitez partager votre expérience professionnelle, échanger sur une actualité locale, régionale ou nationale, nous parler de vos projets, vos besoins, vos préoccupations. Alors n'hésitez pas, venez vous exprimer en direct au micro de l'économie en direct sur IDFM Radio tous les mardis et vendredis de 9h30 à 11h. Je serai ravie de vous mettre à l'honneur dans mon émission.
Tu veux taper des barres ? Apprécier de nouveaux sons et découvrir des profils inspirants. Viens. L'équipe de Tous Ensemble t'invite à écouter Focus tous les vendredis de 21h à 22h sur IDFM. Focus, des histoires uniques portées par le rythme de la musique. Ça se passe sur IDFM Radio 98 FM.